Yeux Mali, l'association ILAES d'aide humanitaire sur le Mali et notamment en pays Dogon, sera dissoute d'ici la fin 2019. Philippe Andrieux, bonjour.
Bonjour.
Tu es le président encore pour quelques jours de cette association.
Eh oui, exactement. Bon, ça fait 14 ans que Yeux Mali existe. Donc, on a fait quand même beaucoup de choses.
Quels étaient les objectifs de cette association ?
Eh bien, au départ, c'était de l'aide à la scolarisation. Mais très vite, on a vu sur le terrain que le plus important, c'était l'eau et qu'il y avait des grands manques d'eau. Déjà, à l'époque, dans ce coin-là, il y avait des puits traditionnels, c'est-à-dire creusés comme ça, mais non étayés, et qui, à la longue, s'écroulaient, donc ils n'étaient plus fonctionnels. Donc, on a monté un projet à ce moment-là sur équiper des villages sur la commune de Bahankas, en pays Dogon, de puits, grands puits, puits à grand diamètre, 2 mètres de diamètre, et sur des 50 mètres, de 50 à 60 mètres de profondeur.
Ce manque d'eau s'amplifie ?
Oui. On aperçoit quand même que plus ça va, moins la saison des puits est longue. Et donc, les nappes phréatiques sont de plus en plus restreintes et manquent d'approvisionnement. Quoi.
Ces puits, en cette fin 2019, ils en sont ouf. Est-ce que tu as des informations à nous communiquer ?
Tout le projet est bouclé. Il est bouclé de pas longtemps parce qu'on est revenu sur certains puits pour recreuser certains puits déjà. D'autres pour aménager autour. Donc là, on a réalisé et conclu un projet sur 13 puits, hein, des puits de grand diamètre. C'est des puits qui reviennent à 10 000 euros quand même, hein, pièce. Et puis, réalisation de 3 périmètres maraîchers avec un puits également, et donc d'un hectare chacun. Et donc, il permet à la population de faire du maraîchage. Donc avec un complément alimentaire et de revenus.
Pourquoi cette dissolution alors ?
Alors pourquoi arrêter l'activité ? Parce que notre projet initial est bouclé. On a continué en introduisant l'artémisia, la plante médicinale contre le palu, aussi dans ce coin. Mais il est quand même, vu la politique actuelle dans la région, ça devient plus en plus délicat d'amener des volontaires sur le terrain au nom de
l'association. Ce que tu nous dis, c'est dangereux.
C'est pas une question de dangereux, mais quand on connaît, mais emmener des bénévoles sur un terrain qui n'est pas forcément sécurisé à 100%, il y a une responsabilité qui est difficilement soutenable par une association. Quoi.
Ce que tu nous dis, en tant que président, pour toi, c'est trop dangereux d'emmener des bénévoles sur ce terrain.
Oui, c'est pas que c'est trop dangereux, mais ça pose beaucoup d'interrogations aux bénévoles qui ne connaissent pas le terrain. Oui, mais est-ce qu'il y a un risque, etc. Bon, où que tu ailles, il y a toujours des risques. Hein. Tu vas au Bataclan, tu avais un risque aussi. Hein. Tu vas sur la promenade des Anglais à 14 juillet, il y avait un risque aussi, quoi. Hein.
Mais on peut dire que le risque, tout de même, est moindre.
Où ça ?
En France, qu'au Mali.
Ça dépend où tu vas exactement. Bon, j'y retournerai pas dans le Grand Nord maintenant, parce que, bon, c'est difficilement accessible. Et puis, bon, c'est quand même plutôt un no man's land maintenant qu'une gestion, disons, nationale, quoi. Hein.
Le Mali, tu vas y retourner en tant que personne ?
Oui, je retourne régulièrement quand même, Mali, Burkina, mais plus à titre personnel. Et puis maintenant, donc, je fais partie d'une autre association, la Maison d'Artémisia, dont je fais partie du conseil d'administration maintenant. Et donc, j'œuvre maintenant plus dans cet esprit-là, les plantes médicinales, avec cette association.
Mais tu vas tout de même suivre ces puits que tu as mis en place, avez mis en place.
Je circule toujours dans le même secteur aussi. Je vois un peu comment ça évolue, les périmètres maraîchers, où c'en est. On a fait comme ça réussir à faire équiper un périmètre maraîcher avec une pompe alimentée par des panneaux solaires. Donc, et deux autres périmètres maraîchers, je suis en train de voir avec la municipalité locale pour essayer d'avoir qu'eux, ils trouvent les financements pour équiper les deux autres puits des périmètres maraîchers avec des panneaux solaires. Quoi.
Ça va être possible ?
Oui, oui, bah, je pense, parce qu'il y a quand même encore des financements réalisables sur ces projets-là. Quoi.
Durant toutes ces années d'action, quelle a été pour toi ta plus grande satisfaction ? Et pour l'équipe Yomali ?
Eh bien, je crois que c'était surtout les grandes expéditions qu'on a réalisées. Donc, on a réalisé au cours de cette période 5 grands voyages.
Notamment Route Sud en 2017.
Voilà, en 2007. En 2007. Donc, à chaque fois, on emmenait entre 14 et 21 et 5 personnes. Donc, on descendait aussi du matériel, tout ça. Donc, c'était une grande aventure, à la fois humaine. Et puis, à la fois pour les équipes qui descendent de découverte, et puis des rencontres humaines très, très sympathiques, parce que c'est des voyages, comme je disais, c'est de la gestion improvisée, quoi. Hein. Voilà, donc...
Qu'est-ce que t'appelles de la gestion improvisée ?
Ben, on ne sait pas, on part le matin, on ne sait pas où on sera le soir, quoi. Hein. Donc, on improvise pour se loger après, etc., quoi. Hein.
Quelle a été la réaction de ces bénévoles que tu as emmenés au Mali ?
Ben, tous ont été enchantés. Par ces expériences qu'ils ont vécues.
Est-ce qu'il y en a qui ont été choqués ou interpellés, plutôt ?
Interpellés, mais recadrés.
Explique-nous, Philippe.
Recadrés parce qu'ils s'aperçoivent que, ben, finalement, la plupart du peuple africain se satisfait de peu de choses, mais ils ont toujours le sourire. Voilà.
Le mode de vie n'est pas du tout le même.
N'est pas du tout le même. On n'est pas dans la technologie de pointe, on va pas comme nous, notre esprit européen, sauver le monde technologique par une nouvelle technologie. Voilà.
Eux, comment ils voyaient les choses alors ?
Ben eux, ils servent quand même maintenant beaucoup du téléphone mobile. Hein, les réseaux ont mis beaucoup d'antennes. Bon, c'est quand même une technologie, mais qui est quand même bien adaptée puisqu'il n'y a pas de la plupart par endroit, il n'y a pas de réseau téléphonique. Donc, la place du portable était quand même intéressante. Quoi, hein.
En plein désert, est-ce qu'il y a du réseau 4G ?
Alors, j'ai vu une photo comme ça.
C'est pour ça que je t'en parle.
En plein désert, un escalier en banco qui monte sur 10 mètres de haut, mais qui n'ouvre pas sur une porte. Il ouvre sur le vide. Et alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah ben ça, c'est là pour capter le réseau. On monte là-haut et on arrive à attraper le réseau. Pas tout le temps, hein, quand même. Alors voilà, c'est un peu l'esprit technologique de base. Voilà.
En 14 ans d'existence de cette association, comment as-tu vu ce peuple évoluer ?
Ben,
par rapport à ces projets, Yomali ?
Par rapport à ces projets, ben, ils ont été très, très satisfaits par rapport à l'eau, au puits, parce que l'eau, c'est quand même une... Il n'y a pas de réseau, réseau d'eau communal. Hein, donc, c'est uniquement des puits dans les villages. Donc, c'est une corvée d'eau. Quand les puits traditionnels sont détruits ou non fonctionnels, il faut qu'ils aillent chercher l'eau plus loin. Donc, ils peuvent faire
plus loin, c'est-à-dire
2-3 kilomètres pour aller chercher l'eau. Donc, à partir de l'âge de 7 ans, 8 ans, les filles, elles partent avec un bidon de 20 litres et elles reviennent avec un bidon de 20 litres plein sur la tête. Voilà. Donc, avec les puits qu'on a fait à proximité des villages, ça change complètement la donne. Hein, ils ont de l'eau à portée. Et puis, ils peuvent aussi abreuver le bétail plus facilement. Quoi.
Ces puits vont être entretenus dans un futur proche ?
Ben, ils sont entretenus déjà facilement, puisque c'est ferraillé, bétonné, donc ça ne s'écroule pas.
C'est plutôt autonome, ce que tu nous dis.
Voilà. Et par contre, il faut descendre de temps en temps pour enlever le sable, parce que comme il y a beaucoup, avec l'Harmattan, beaucoup de vent de sable, ben, finalement, il y a du sable qui se dépose au fond. Et on dit, tiens, c'est quand même bizarre. Ben oui, l'air est tellement saturé en sable très, très fin qu'il rentre partout, même dans les voitures. Moi, j'ai vu avec mon véhicule, eh bien, finalement, j'avais du sable dans le fond du réservoir. Comment il est rentré là-bas ? Je veux dire, c'est quand même étonnant.
Ta plus grande déception durant ces 14 ans ?
Eh ben, c'est l'évolution actuelle où, ce terrorisme qui existe dans ces pays-là, dans les zones les plus défavorisées.
Comme tu nous parlais un instant, le Grand Nord, non ?
Qui s'installe, et comme c'est un no man's land, parce que bon, l'armée est présente entre parenthèses, mais faut savoir que l'armée malienne, c'est une armée un peu particulière, parce que tu payes pour rentrer à l'armée, tu payes pour acheter tes galons, et ainsi comme ça, t'es fonctionnaire. T'es pas un guerrier, quoi. Hein.
No man's land, pour rappel, c'est une zone de non-droit.
Voilà, ben c'est, je veux dire que c'est ceux, les terroristes qui sont là, qui font la loi. Parce que l'armée fait des missions, ils vont et puis hop, ils repartent, ils ne restent pas sur le terrain, ils vont s'enfermer dans leur caserne. Bon, après les autres, ils reviennent et puis c'est eux qui sont présents.
Hein. Penses-tu que ça va évoluer dans le positif, dans un futur proche ?
Futur proche, non, certainement pas. Je pense qu'il faudra quand même plusieurs années pour que tout ça se remette d'aplomb, quoi. Hein.
Comment vivent alors ces populations dans ce Grand Nord,
ben,
du Mali ?
Ils survivent. Ils survivent.
Ils survivent comment ?
Ils survivent en faisant des petits trafics, voilà.
Trafic de quoi ?
Trafic, c'est simple. Y a, comme ça, No Man's Land, il y a beaucoup de monde là-bas parce qu'il y a du business à faire. La drogue, les clandestins, donc tout ça, c'est monnayable. Donc, ils vont voir un local, un Touareg, puis qui connaît bien tout le secteur et la région. Il dit, voilà, je te donne 100 000 francs CFA, et il faut que tu m'emmènes le 4x4 à tel endroit, là-bas, en Algérie ou en Libye.
100 000 francs CFA, ça fait combien en euros ?
100 en euros, ça, tu divises par 600, voilà. Ça fait, je ne sais plus trop, mais bon, ça doit faire dans les 40-50 euros, quoi. Hein.
Ce que tu nous dis, Philippe, c'est que dans le Grand Nord du Mali, il y a du trafic d'êtres humains et d'armes.
Ah oui, oui,
est-ce
oui.
Est-ce qu'on peut résumer
oui,
ça comme
de,
ça
de drogue, tout, enfin tout, là, tout ce qui est monnayable. Des cigarettes aussi. Hein. Donc, ceux qui n'ont rien, je veux dire, ils ne demandent pas ce qu'il y a derrière, hein. Il prend la voiture, il empoche les 100 000 francs CFA, et puis il fait route, il revient, et puis basta. Hein. C'est pas pour ça que ce sont des terroristes. Hein. C'est, pour eux, c'est des moyens de survie, puisque l'État n'est pas présent. Quoi, hein.
L'État va réussir à récupérer ce Grand Nord ?
Disons que le comité africain, l'équivalent de l'ONU, commence à mieux gérer ce problème-là pour que ça devienne un problème international africain et pas uniquement un problème d'un État. Quoi. Donc il y a déjà les forces africaines qui sont présentes, mais à minima, il faut, je pense, bien restructurer le pays, surtout le Nord, qui a toujours... C'était toujours un problème ethnique entre le Nord et le Sud. Le développement au Mali s'arrête à Gao. Après, au-dessus, t'as même pas d'indication de pancarte pour aller à Kidal ou la truc. Non, t'as une route bien bitumée, deux voies, c'est quatre voies qui va de Gao à l'aéroport. Donc, tu prends cette quatre voies et puis au bout d'un kilomètre, pouf, tu descends dans le bas-côté, tu fais Cap Nord et tu retrouves les pistes qui vont vers le nord et tal. Il n'y a pas de route, disons, fléchée, vraie. Voilà. Donc, il y a quand même un problème, quoi.
Est-ce que tu t'es fait peur durant ces 14 ans d'aventure ? On peut dire maintenant aventure, non ?
Il y a eu des moments où on a pris conscience qu'il y a des zones quand même à haut risque. Hein, quand tu débarques dans un village no man's land et puis sur les toits, tu as des gars en train de regarder un peu autour avec une kalachnikov. Hein. Bon.
Ça, tu l'as vu ?
Oui. Ou alors tu sors du village, toc, tu te fais arrêter par un 4x4 avec une mitrailleuse dessus. Mais c'est pas de l'armée, hein, c'est du local, quoi, organisation locale de défense, quoi.
Comment ça s'est passé ?
Bah bien, parce qu'on a des guides, on les connaissent et puis voilà. Donc après ça va, ça passe. Mais comme de ces genres de villages où il y a beaucoup de zones de trafic carburant notamment, parce que tout le carburant du Nord vient de l'Algérie. Où le carburant est très peu cher. Ça doit être dans les 50-60 centimes le litre, quoi, hein, euros. Hein. Donc, tu as beaucoup de trafic de carburant qui vient sur le Mali, parce qu'au Mali, le carburant est pratiquement aussi cher que chez nous. Quoi, hein.
As-tu des nouvelles envies de projets humanitaires ?
Bien, je vais continuer avec la maison de l'Artemisia parce que je trouve que c'est un beau projet sur l'Afrique.
Tu continues, toi, personnellement, hors Yomali.
Voilà, je suis engagé auprès de cette association dont je fais partie du conseil d'administration. Et donc, avec eux, j'œuvre sur l'Afrique de l'Ouest pour développer les plantations, les formations d'Artemisia et le bon usage de la plante à visée médicinale, plus particulièrement sur le paludisme. Parce qu'il faut savoir que le paludisme, c'est 500 000 décès par an, dont 90% en Afrique et 60% des enfants. Quoi, hein. Donc, et que 50% des médicaments conventionnels contre le palu sont des faux médicaments en Afrique. Mais ils ont la même emballage, la même structure, le même aspect, la même couleur. Bon, là, c'est bingo. Tu gagnes, tu grattes. C'est pas que tu grattes, mais soit ça marche, soit ça marche pas.
C'est de la contrefaçon.
Tout à fait. Hein. Et ça, ça vient de l'Inde, voilà, qui ont des grosses usines de génériques. Et ils ont développé une activité parallèle. Dans une chaîne, tu as à un côté les bons médicaments et de l'autre côté les faux médicaments. Parce que ça, ceux qui achètent ça, ça coûte moins cher. Voilà.
Tu les formes à l'Artemisia, voilà, à la bonne pratique de cette plante.
Des plantes pour qu'ils s'approprient la plante de façon individuelle, même dans les villages et les concessions, pour qu'ils puissent prendre l'Artemisia en tisane, parce que le thé, ils savent le faire, ils prennent beaucoup de thé, et en thé, en tisane, en infusion ou en décoction, ça marche très bien dans le palu, en prévention et également en curatif. Quoi.
Ton prochain voyage, c'est quand ?
Oh, certainement d'ici la fin de l'année, début de l'année prochaine.
Hein. On suivra ton aventure, car on l'a bien compris, il y a du réseau 4G et du réseau téléphonique.
Voilà.
Et on retrouvera ton aventure et votre aventure Route Sud le dimanche 6 octobre prochain à 18h au cinéma Aidé.
Voilà, donc ce long métrage qu'on a tourné en 2007.
Ça dure 1h20 tout de même.
1h20, Route Sud, c'est-à-dire à partir de l'Île-Dieu jusqu'au Mali. Par l'Algérie et le Sahara. Donc, on avait quand même 11 véhicules et 21 participants. Donc, c'était une belle aventure, riche en événements, parce que plus on a de voitures, plus on a de monde, plus on a de problèmes, et plus la route est longue. Donc,
plus de checkpoints aussi, non ?
Voilà, et tout ça, tous les problèmes police et contrôle et douane et tout, enfin tout. Mais bon, c'est très intéressant. Après avoir fait ça, on est tranquille pour faire beaucoup de choses. Quoi.
Ce film a été tourné en 2007.
2007. Tes images ont été tournées par Martin Mallet. Le montage a été fait par Dominique Rocher. Et voilà, c'est un film avec des belles images où on retrouve...
Des moments de galère et de joie, à première vue.
Voilà, tout à fait. Et finalement, ben, on dit, voilà, ça fait 12 ans que ce film a été tourné, mine de rien.
Ça fait une belle conclusion pour cette association.
Voilà, et c'est en disant, voilà, Mali, c'était aussi ça, ces grandes aventures par la route. Quoi.
Route Sud, c'est le dimanche 6 octobre à 18h au cinéma, oui, à découvrir, et c'est gratuit.
Et c'est gratuit, donc on est tout à fait content de conclure l'association avec cette projection de film qui a été aussi déjà un projet qui n'est pas facile à lancer, comment organiser pour tourner un film, etc. Et puis le faire partager une dernière fois à la population, parce qu'il y a plein de grandes figures qui sont encore là sur le film et qui ont disparu malheureusement. Quoi.
Eh bien, ça sera le mot de la fin. Merci Philippe Andrieux, à très bientôt.
À très bientôt.